steht auf für Jesus, nun kommt das Kämpferheil. Erhebt im frohen Glauben sein heiliges Reich von ihr, bis jeder Feind geschlagen und Christus ist der Herr. Von Sieg zu neuen Siegen führt er sein treues Heer. Steht auf für Jesus, ihr Gottgeweihten nahen, erhebt das Siegesbanner, denn Jesus, ja, er muss Sieger sein. Steht auf für Jesus, folgt dem Posaunenton, hinaus aufs Feld der Ehre, mit euch ist Gottes Sohn. Nichts darf den Mut euch lähmen, den Gottes Geist entfacht, der euch zu überwinden im Kampf des Glaubens macht. Steht auf für Jesus, ihr Gottgeweihten Namen, erhebt das Siegesbanner, denn Jesus, ja, er muss Sieger sein. Steht auf für Jesus in seiner Kraft allein. Vertrauet nicht dem Fleische, traut keinem fremden Schein. Legt an die Geistesrüstung mit Wachen und Gebet. Als Streiter Jesu Christi für ihn im Felde steht. Steht auf für Jesus, ihr Gottgeweihten Namen, erhebt das Siegesbanner, denn Jesus, ja, er muss Sieger sein. Steht auf für Jesus, nun wird es nicht mehr lang. Bald folgt dem Schlachtgetümmel der helle Siegessang. Und dem, der überwindet, winkt dort die Lebenskron. Ja, herrschen mit dem König wird er auf seinem Thron. Steht auf für Jesus, ihr Gottgeweihten Namen, erhebt das Siegesbanner, Jesus, ja, er muss Sieger sein.
Wird uns viel auf Pilgerweise oftmals schwer der Pilgerstand. Wird uns viel auf Pilgerweise oftmals schwer der Pilgerstand. Ein wenig Neue, ein wenig Kleid die Segenrohle, zahm vor ihm dem Herrn bereit über schwere Zeit. Führt der Gott zu wunderbaren, schönen Himmelsherrlichkeit. Führt der Gott zu wunderbaren, schönen Himmelsherrlichkeit. Ein wenig Leiden,
ein wenig Freude, dann fällt die Ruhe droben am Kristallmeer.
Ein wenig Leiden,
ein wenig Freude, dann fällt die Ruhe droben am Kristallmeer.
Dort steht im Meisterkleid die Seele ohne Zau, vor ihm dem Herrn bereit zum Hochzeitsmahl. Ein wenig Leiden,
ein wenig Freude,
die Böden, wie sie gehört, der Jubelsangebot in Ewigkeit. Will uns oft das Kreuz auch drücken, tragen wir's doch nie allein. Lasst uns stets nach oben blicken, wo wir werden selig sein. Lasst uns stets nach oben blicken, wo wir werden selig sein. Ein wenig Leiden,
ein wenig Tränen, dann fällt die Ruhe droben am Kristallmeer.
Ein wenig Leiden,
ein wenig Tränen, dann fällt die Ruhe droben am Kristallmeer.
Dort steht im Meisterkleid die Seele ohne Zau, vor ihm den Herrn bereit zum Hochzeitsmahl. Ein wenig Glauben, dein Volk, die Ruhe hoben, ein Meer. Dort schallt im Höhenchor, bis die Gehörte nur der Jubelsang erhob in Ewigkeit.
Liebe Brüder und Schwestern, wir möchten euch alle ganz herzlich begrüßen in dem teuren und heiligen Namen unseres Herrn Jesus Christus. Vor einem Monat haben wir noch die Abschlussfeier des Jahres 2019 hier gehabt. Jetzt ist schon wieder ein Zwölftel des neuen Jahres vorbei und mir kommt dabei das Lied in den Sinn: Es eilt die Zeit, die Stunden fliehen, und niemand hält sie auf. Auch deine Stunden fliehen dahin, wie schneller Wogenlauf. Es soll für uns eine Ermahnung sein, dass wir die
Notation de ce que nous devons racheter le temps qui nous reste à vivre. Le temps que nous avons encore à vivre sur terre, que nous puissions le consacrer au Seigneur et le suivre sur son chemin. La chorale a chanté dans le premier cantique. Levez-vous pour Jésus. Et dans le troisième verset du cantique, il est dit aussi, lève-toi, tiens-toi debout pour Jésus. Et le temps ne durera plus. Bientôt, la bataille sera achevée, la victoire est certaine. Et celui qui vaincra recevra là-bas la couronne de la vie. Nous voulons toujours penser à cela, que ici sur cette terre, nous ne sommes que des étrangers et que nous devons nous préparer pour le jour, glorieux jour du retour du Seigneur Jésus-Christ. Aussi cet après-midi, qu'est-ce qui puisse servir à ce que nous puissions être de nouveau fortifiés et que avec des cœurs ouverts, des oreilles ouvertes, nous puissions écouter la parole qui nous est adressée par une bouche mandatée. Dans le deuxième cantique, nous avons chanté. Nous sommes sur le chemin, nous sommes en voyage comme un pèlerin. Et rien ne doit nous retenir ici. Notre objectif, c'est de prendre part à l'enlèvement. Et de prendre, d'être une partie de ce troupeau qu'a chanté ce cantique, encore un peu de douleur, encore un peu de larmes. Et ensuite, là, le repos sera pour toujours là-bas. C'est ça notre objectif. De nous efforcer à atteindre ce but. Pour que nous puissions, comme ce troupeau est décrit dans ce cantique, nous soyons revêtus de blanc, nous tenant devant le Seigneur. Nous voulons chanter deux cantiques. Le premier cantique, le 193, le 193, celui qui regarde Jésus à la croix. Le 193, le 193. Celui qui contemple Jésus à la croix reçoit le salut au même moment. Vois, vois, pécheur, vois. Celui qui regarde Jésus sur la croix reçoit le salut au même moment. Jésus n'a-t-il pas porté tes fautes, les a expiées sur la croix pour toi? Son sang n'a-t-il pas coulé pour toi plein de miséricorde? Pour t'apporter à toi et à moi la rédemption, le salut, la délivrance. Vois, vois, pécheur, vois. Celui qui regarde Jésus sur la croix reçoit le salut au même moment, à la même heure. Ce n'est pas tes larmes et tes prières qui l'ont fait. Ce n'est pas par elles que tu as été réconcilié avec Dieu. C'est le sang de ton Sauveur qui t'a affranchi, qui t'a délivré, qui t'a libéré du jugement. Vois, vois, ô pécheur, vois. Celui qui regarde Jésus sur la croix, obtient à la même heure le salut. Ne continue plus à douter et crois. Tu n'as en dehors de ça plus rien d'autre à faire. Ton Jésus s'est tenu dans la brèche pour toi. En lui, tu peux te reposer, sauvé, béni. Vois, vois, pécheur, celui qui regarde Jésus à la croix reçoit à la même heure le salut. Alors reçois avec joie ce que Jésus t'offre. Il t'accorde la vie éternelle. Oh, crois certainement. Saisis cela aujourd'hui. Et cela sera ta part et pour toujours, éternellement. Vois, vois, pécheur, vois. Amen. Nous avons lu le verset 4. Nous avons chanté le quatrième strophe. Ne doute, continue pas à douter, crois-le certainement. Tu n'as sinon rien d'autre à faire. Ton Jésus, lui, il s'est tenu aussi pour toi dans la brèche. En lui, tu peux te reposer, béni. Comme Moïse était, alors qu'il était descendu pour son peuple, et qu'il c'était dans le creux, il était dans le creux du rocher, alors qu'il se tenait dans la brèche pour son peuple. C'est ainsi que Jésus aussi s'est intercédé pour nous. Et nous avons la grâce de croire sa parole, la parole qui a été donnée pour ce temps. Nous avons la grâce de l'accepter de tout notre cœur pour aller de l'avant avec le Seigneur et regarder de l'avant, aller de l'avant là où nous serons pour toujours. Nous voulons pour le deuxième cantique chanter encore le 600. Le 693. 693. Ne crains pas, quoi qu'il arrive, Dieu prend soin de son enfant. Le 693, le 693. Ses yeux d'amour veillent sur toi. Dieu prend soin de son enfant. Dieu prend soin de son enfant. Sa bonté, sa fidélité sont nouvelles tous les jours pour toi. Son enfant, il prend soin. Dieu prend soin de son enfant. Quand dans la douleur, le courage t'abandonne, quand le danger et les difficultés t'entourent, Dieu prend soin de son enfant. Dieu prend soin. Plein de bonté, sa bonté, sa fidélité se renouvellent tous les jours. Dieu prend soin de son enfant. Ce dont tu as besoin, il te l'accorde. Dieu prend soin de toi. Son enfant, viens seulement dans la foi pour continuellement. Dieu prend soin de son enfant. Dieu prend soin de son enfant. Sa bonté et sa fidélité sont tous les jours, se renouvellent tous les jours. Lui prend soin de toi, son enfant. Même si l'épreuve dure, Dieu prend soin de toi. Bientôt, il t'ôtera ce qui te rend la vie difficile. Dieu prend soin de son enfant. Il prend soin. Sa bonté et sa fidélité se renouvellent tous les jours. Il prend soin de toi, son enfant. Il prend soin de son enfant. Amen. Oui, c'est vrai, Dieu prend soin de toi. Prend soin pour nous tous chaque jour de manière nouvelle. Et même si nous avons des difficultés, des soucis et des inquiétudes, nous voulons nous tenir en faisant confiance au Seigneur. Faisant confiance au Seigneur, car il ne fait aucune erreur. Nous sommes ceux qui font des erreurs. Mais le Seigneur, lui, il sait toutes choses. Et sa grâce est infinie aussi sur nous. Et il sait ce dont nous avons besoin. Ce dont nous avons besoin avant même que nous lui le demandons. Que cet après-midi puisse servir à ce que nous puissions être préparés pour le jour de son retour glorieux. Je demande au frère Baumgartner de venir devant et lire une parole avec nous et prie. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, pour la première réunion de cette nouvelle année, nous voulons saluer tous très fraternellement et souhaiter la bienvenue à tous dans le prêché de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi tous ceux qui, dans le monde entier, sont liés avec nous dans le Seigneur et qui, de la même manière, maintenant, écoutent et suivent et voient, nous voulons de la même manière les saluer et nous souhaitons ensemble les riches bénédictions de Dieu. Je pense que nous sommes tous venus dans une grande attente. Nous sommes venus pour écouter la sainte et précieuse parole de Dieu d'une bouche mandatée. Et cet après-midi, nouvellement, expérimenter le Seigneur. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que nous pouvons encore venir. Nous sommes reconnaissants de ce que nous pouvons être ici. Nous louons et nous exaltons le Seigneur. La parole de Dieu demeure éternellement. Le Seigneur est si merveilleux. Nous vivons dans les derniers jours très proches du retour du Seigneur. Le Seigneur, pour ces jours, a promis qu'il déversera son esprit sur toute chair et confirme sa parole par les signes et les prodiges. Ainsi, que la puissance de Dieu, aujourd'hui, puisse venir sur nous tous. Que le Saint-Esprit nous vivifie cet après-midi nouvellement, tel qu'il a promis qu'il déversera son esprit sur toute chair. Le Saint-Esprit est aujourd'hui présent. Il est parmi nous. Nous avons besoin de lui. Nous voulons le recevoir, car il nous est promis. Je voudrais, avant la prière, lire une parole dans Jean, chapitre 14. Je demande qu'on puisse se lever pour la prière. Jean 14. Seigneur, enseigne-nous. Jean 14, verset 12, jusqu'au verset 20. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, Jean 14, verset 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Jusqu'ici, cette sainte, précieuse parole. Nous voyons que le Saint-Esprit est l'accomplissement des promesses et la vie éternelle pour nous tous qui maintenant croyons sa parole. Si Jésus aujourd'hui frappe à la porte de notre cœur, que nous puissions ouvrir nos cœurs, nous voulons lui demander qu'il puisse se saisir de nous et demeurer dans nos cœurs, habiter dans nos cœurs. Nous voulons aujourd'hui que chaque âme reçoive d'être rempli du Saint-Esprit. Nous voulons prier. Aujourd'hui, il y a aussi une présentation d'enfants qui est annoncée. Nous demandons donc déjà, maintenant, après la prière, automatiquement aux parents de venir devant. Grand Dieu, nous te remercions de ce que cet après-midi, de nouveau, sans être dérangés, nous pouvons être ici rassemblés. Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que par le Saint-Esprit, tu es présent pour nous bénir, pour nous fortifier, pour nous vivifier. Ta parole est et demeure la même. Nous croyons que tu te tiens toujours sur ta parole, que tu tiens ta parole et de ce que nous avons trouvé grâce devant toi. Vivifie, rafraîchis chaque âme et chaque cœur. Tu es notre sauveur, notre rédempteur et aussi notre médecin. Bien-aimé Seigneur, agrée-nous aujourd'hui dans ta grâce et remplis-nous de ton esprit et de ton amour divin. Bénis particulièrement le porteur de ta parole et accorde-lui les forces nécessaires pour prêcher ta parole. Bénis-nous tous ensemble. Bénis tout ton peuple dans l'adoration sur terre. Nous te remettons ces réunions entre tes mains. Couvre-nous de ton sang et que tout soit sous ton contrôle. Seigneur, nous ne regardons pas aujourd'hui à nous. Nous regardons seulement à toi et à toutes tes promesses. Fais-nous grâce. Nous te le demandons dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Chantons ce cœur, crois seulement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous vivons encore dans les jours bibliques. Tu es encore aujourd'hui le même. Et à ta place, en ton nom, nous te consacrons, Matthéo. Bien-aimé Seigneur, comme tu l'as fait toi-même, tu as pris les enfants dans tes bras, tu les as serrés sur ton cœur et tu les as bénis. Matthéo soit béni et consacré à Dieu pour ce temps et pour l'éternité. Dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Béni soit toute la famille pour l'honneur de Dieu dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oui, au Seigneur soit la reconnaissance. Cela a déjà été mentionné. La première réunion dans cette année, Dieu le Seigneur a, n'est-ce pas, de manière particulière, a couronné l'année passée d'une manière particulière de grâce. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de ce que le monde entier, n'est-ce pas, est atteint avec le dernier message et que Dieu a ouvert nos yeux et a ouvert notre intelligence pour que nous puissions vraiment tout voir ordonné dans la Bible et reconnaître le jour et l'heure dans lequel nous vivons et que cette année soit une année de jubilé, une année bénie où tous nous pouvons retourner à ce que a possédé l'Église primitive, le plein salut, les pleines bénédictions, tout était dans l'Église primitive. Et nous remercions le Seigneur de ce que nous vivons dans le temps du rétablissement de toutes choses où tout doit être rétabli dans l'état primitif. Et c'est ainsi que c'est écrit dans Actes des Apôtres 3 concernant notre Seigneur. Lui, il faut que le ciel le reçoive jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses quand tout sera rétabli dans l'état primitif. Aujourd'hui, mon cœur est un peu lourd et d'un autre côté aussi allégé dans un point une profonde douleur et dans un autre point une reconnaissance pour ce que le Seigneur a fait. Nous avons tous appris et tous savent ce qui s'est passé le 20 janvier 1950, alors que Frère Branham à Houston, Texas, parlait et qu'un prédicateur baptiste l'a contredit et a renié que le Seigneur aujourd'hui guérit. Et Frère Branham disait, je n'ai pas besoin de rendre témoignage pour moi, lui qui m'a envoyé rendra témoignage pour cela. Et ça, c'est le moment dans lequel cette photo avec la colonne de feu sur la tête de Frère Branham a été prise. Mr. Myers et Mr. Kipperman ont fait des photos. Et alors, la chose suivante s'est passée, que le Seigneur, dans cette colonne de feu, est descendu. Et bien, mes frères et sœurs, je voulais moi-même me convaincre de ça, quoi que je croyais. Mais j'ai entrepris un vol à Washington, en allant à Tucson, Arizona. J'ai fait un arrêt, un escale, et j'ai cherché jusqu'à que j'ai trouvé l'endroit et vu la photo là-bas et je l'ai prise dans mes mains en tant que témoignage que de ce que Frère Branham avait dit, en tant que témoignage que ce témoignage était vrai. Et cette brochure qui est sur la table des brochures devant, nous avons aussi inscrit ce que Dr. John Selezi a exposé, que cette lumière surnaturelle a vraiment été là. Sinon, l'objectif de l'appareil n'aurait pas pu prendre cette lumière. Nous venons encore à en parler. L'autre, c'est le 23 janvier 1945. Tous ceux qui sont jeunes, qui sont plus jeunes, ne peuvent pas, porter un jugement là-dessus comme moi et les autres qui déjà sont avancés en âge, alors que l'armée rouge avait libéré Auschwitz le 23 janvier 1945. Et bien, mes frères et sœurs, j'ai dans le cœur que Dieu puisse bénir Israël. Bénir Israël. Et encore une fois, bénir Israël. J'ai apporté ce tableau. 21 pays qui ont été possédés par les nazis dans la Deuxième Guerre mondiale. Tous les Juifs ont été transportés. Et on peut voir de quel pays combien de Juifs ont été transportés dans les 5 camps de concentration finales qui existaient à l'époque. Et quand on lit tout cela, alors vraiment, cela nous touche le cœur. Et notre Seigneur, n'est-ce pas, avait prédit, que ce soit dans Matthieu 24 ou alors dans Luc chapitre 21, et particulièrement le verset 24 et 25, Jérusalem sera foulée par les nations, ça c'est Luc 21, verset 24-25, jusqu'à que le temps des nations soit passé. Et ils vont tomber par le tranchant de l'épée. Tout cela a été prédit à l'avance. Luc 21, verset 24. Et tout cela s'est accompli. Et nous constatons ces choses et remercions le Seigneur. Je me suis réjoui alors que jeudi à Yad Vashem, sur la montagne de Helsels, il y avait eu plusieurs présidents d'État qui sont venus et qui ont reconnu ce qui s'était passé et ont reconnu ce qui a été fait aux Juifs. Et en partie, nous avons entendu les discours des différents présidents. Le Seigneur a réparé les dégâts et a guéri les blessures et a rassemblé son peuple de tous les peuples et langues. Et comme il est écrit, c'est ainsi que nous le croyons et c'est ainsi que c'est accompli dans notre temps, que le Seigneur de tous les peuples et de toutes les langues rassemble son peuple Israël dans le pays de la promesse, car c'est là-bas que les prophéties vont s'accomplir que Dieu pour Israël a déterminé. Et nous sommes, nous avons, n'est-ce pas, été introduits dans le pays de la promesse, oui, dans toutes les promesses que Dieu, dans sa parole, nous a données. Et seulement encore une pensée sur la conférence à Davos. C'est vraiment seulement qu'un seul sujet, le changement climatique, le réchauffement climatique, le réchauffement de la Terre, les... Donc, la température de la Terre a augmenté de 5 degrés partout. Tout ce qui est écrit dans Ésaïe 30 au verset 26 s'accomplit. Doucement mais sûrement, le soleil va briller 7 fois plus fort et aucun homme va l'empêcher. Cela va prendre son cours jusqu'à que le point culminant soit atteint. C'est ainsi que c'est écrit dans Ésaïe 30 au verset 26. Et c'est ainsi que cela va aussi s'accomplir. Nous sommes simplement consolés et savons que que Dieu, n'est-ce pas, a laissé tout prédire à l'avance dans sa parole. Et imaginez-vous un peu de quoi est-ce que... qu'est-ce que c'est que 20... Imaginez-vous, 20 degrés. Qu'est-ce que ce serait si c'est 20 degrés plus chaud que ça? 20 degrés plus chaud. Donc, combien de fois plus? 7 fois plus. 20 degrés, 7 fois plus chaud que 20 degrés. Imaginez-vous, qu'est-ce qui reste alors s'il fait chaud comme ça? Et tout ce que Dieu a prédit va s'accomplir. Et pour nous, bien mes frères et sœurs, c'est simplement important de voir, car il est écrit, quand vous verrez toutes ces choses, alors redressez-vous, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Et combien de fois nous avons eu à le dire, nous ne sommes pas au commencement de la fin des temps, mais nous sommes à la fin de la fin de la fin des temps. Et les prophéties bibliques s'accomplissent dans le monde entier, devant nos yeux. Et très particulièrement, ce sont les promesses qui nous ont été données. Voici, je vous envoie, vous, à vous, les croyants, je vous envoie, vous qui croyez ce que j'ai annoncé à l'avance. Oui, Dieu a tenu sa parole et il n'y a pas longtemps, j'ai particulièrement lu les chapitres adressés à Timothée et aussi l'épître de Pierre. Comment est-ce que les apôtres ont mis l'accent toujours sur le retour du Seigneur Jésus-Christ? Ils l'ont mis comme le premier sujet le plus important. Et aussi lié à cela, notre préparation pour ce retour glorieux dans les paroles de Pierre, particulièrement. Dieu ne tarde pas avec l'accomplissement de la promesse, mais il veut que les derniers soient appelés à sortir, que tous soient conduits à la repentance et viennent à la connaissance de la vérité. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de tout notre cœur, reconnaissants de ce que nous vivons dans ce temps, justement, dans lequel les prophéties bibliques réellement, devant nos yeux, deviennent une réalité divine, sont devenues une réalité divine. Je voudrais particulièrement, en ce qui concerne la nuée et la colonne de feu, je me suis noté les versets bibliques qui parlent de la nuée et de la colonne de feu déjà dans l'Ancien Testament. Concernant la nuée et la colonne de feu qui accompagnait le peuple d'Israël nuit et jour avec et qui était avec le peuple d'Israël. Et bien aimés frères et sœurs, quand nous pensons à cela, comme cela est écrit ici particulièrement, oui, très particulièrement, dans Exode, le chapitre 13, versets 21 et 22. Exode, chapitre 13, versets 21 et versets 22. Ici, nous lisons que la colonne de feu, la nuée pour les guider, au verset 22, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit. Ne se retirait point de devant le peuple. Bien-aimés frères, est-ce que nous sommes conscients de ce qui s'est passé dans notre temps? Alors que Saul était sur le chemin de Damas, il a vu une lumière qui était plus forte que celle du soleil quand elle brille à midi. Et de cette lumière, la voix s'est fait entendre. Je suis Jésus que tu persécutes. Et si ensuite nous pensons à cela, Combien de fois Frère Branham a dit, c'est la même lumière, la même colonne de feu qui était avec Israël. Et de la même manière, tel que Frère Branham a dit 1500 fois dans la lignée de prière, il pouvait dire, ainsi dit le Seigneur. Combien de fois il l'a mentionné. Maintenant, la lumière est sur cette sœur, la lumière est sur ce frère, la lumière est ici entre moi et cette personne qui est devant sur l'estrade. Et dans cette lumière surnaturelle, il voyait qui était cette personne et d'où est-ce qu'elle venait et les détails sur la personne. Bien-aimés frères et sœurs, cela nous conduit à l'appel le 7 mai 1946. Tel que à Moïse deux signes ont été donnés, c'est ainsi que deux signes te seront donnés aussi. Nous avons souvent eu à parler de cela. Pour moi, il s'agit simplement de ce que, frères et sœurs, que le même Seigneur, de la même manière, dans notre temps, s'est révélé et a ainsi, tel qu'il avait promis, il a envoyé son serviteur, le prophète, dans notre génération pour nous ramener à Dieu, pour nous ramener à sa parole, pour nous ramener au commencement. Et particulièrement cette pensée, comme il est dit, au temps convenable, au temps fixé, au temps fixé. L'apôtre Paul dit que le retour du Seigneur aura lieu au temps fixé. Paul parle aussi de ce que le Seigneur, au temps fixé, a, n'est-ce pas, révélé sa parole. Tite 1, verset 3. Je vais, Dieu voulant, en parler dans la lettre circulaire. Temps fixé. À Abraham, le Seigneur a dit, après 400 ans, je ferai sortir ta descendance de la captivité. Il a fixé le temps. Quand est-ce que l'exode allait avoir lieu? Et quand le temps fut accompli, et ça aussi c'est très important, les deux expressions, quand le temps fut accompli, et aussi aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Dans Galates chapitre 4, verset 4, l'apôtre Paul écrit, quand le temps fut accompli, Dieu envoya son fils né d'une femme. Quand le temps fixé de Dieu, le temps fixé de Dieu fut accompli, Dieu a envoyé son fils. Et aussi dans Luc 4, notre Seigneur, n'est-ce pas, a pris la parole entre ses mains et c'était dans sa bouche. Ésaïe 61. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vos yeux. Les deux vont ensemble. Quand le temps fut accompli, et aujourd'hui, cette écriture que Dieu avait promis par sa grâce est accomplie. Et c'est ainsi que nous voyons réellement que nous avons une part directe au dessein du salut par la grâce de Dieu. Nous pouvons vivre ces choses et je peux le dire pour la gloire de Dieu, pour l'honneur de Dieu, que chaque parole nous a été révélée et nous n'avons pas besoin de discuter sur un point, mais nous pouvons librement et ouvertement partager la sainte et précieuse parole de Dieu, prêcher la sainte et précieuse parole de Dieu. Et tel que Moïse, quand le temps fut arrivé, il a vécu, il a vu la gloire surnaturelle de Dieu dans ce buisson ardent. Et de ce buisson ardent, le Seigneur s'est adressé à lui. Et Moïse devait ôter ses sandales. Mais le mandat divin, il l'a reçu de la bouche de l'Éternel. Et Moïse savait qu'il avait à exécuter ce que Dieu l'avait déterminé à faire. Rassemble-moi mon peuple. Et il devait justement aller à Pharaon et lui dire, laisse sortir mon fils, mon premier-né, pour qu'il me serve. Et là, la parole fils, là, la parole fils à sa place, mon premier-né, fils, Israël. Et ensuite, dans Osée chapitre 11, au verset 1, j'ai appelé mon fils d'Égypte. Et ensuite, dans l'évangile de Matthieu, il fallait que Joseph, avec Marie et l'enfant, aille en Égypte, fuit en Égypte, pour que cette prophétie biblique s'accomplisse. De l'Égypte, j'ai appelé mon fils. Comme l'accord entre l'Ancien et le Nouveau Testament est merveilleux. C'est comme un fil rouge qui point pour point souligne et nous voyons ce que Dieu a fait. De la même manière, alors que le Seigneur, n'est-ce pas, avait annoncé 70 ans de captivité au peuple d'Israël, et quand le temps fut accompli, après 70 ans, Dieu a veillé à ce que la promesse s'accomplisse. Bien-aimés frères et sœurs, Jean-Baptiste était un prophète promis. Tout avait été prédit à l'avance, écrit à l'avance, même sur lui. Et c'est ainsi qu'au temps fixé, cela s'est accompli. Et ensuite, il y a eu l'ange Gabriel qui vint et qui a parlé à Zacharie. Il vint à Marie. Il a parlé à Marie. L'action surnaturelle a commencé au moment où le Seigneur était en train d'accomplir des prophéties bibliques. Dieu, le Seigneur lui-même, n'est-ce pas, a veillé sur sa parole. Et ensuite, nous venons rapidement au dernier message. En juin 33, il y a plusieurs jours que nous nous sommes remarqués. Le 11 juin 33, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ, c'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. J'ai lu une citation en quatre parties où le Seigneur a dit que des milliers ont regardé alors que la lumière surnaturelle était descendue et restait suspendue sur ma tête. Et ensuite, la voix a retenti telle que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Je me suis réjoui de cela alors que frère Branham, dans cette citation-là de 1964, disait en insistant, des milliers ont vu la lumière quand elle est descendue et resta suspendue sur ma tête. Peut-être que dans la lettre circulaire, je vais le redonner. Dieu a toujours eu des témoins quand il faisait quelque chose. Et il disait à ses disciples, vous êtes mes témoins. Et un témoin, des témoins doivent avoir vu, doivent avoir vécu quelque chose. Et les deux, le Seigneur, dans notre temps, a confirmé. En mars 1962, frère Branham, dans une vision, avait vu qu'une nuée surnaturelle allait descendre sur l'Arizona. Et il lui a clairement été dit en mars 62 que quand ils vont élargir ta rue là où tu habites, ça voudra dire pour toi que le temps est arrivé où tu dois déménager en Arizona. Imaginez-vous, directement dans la vision, il lui fut donné l'ordre jusqu'à dans tous les détails. Quand la commune agrandira, élargira ta rue et que les bulldozers monteront et descendront dans la rue et que ta palissade sera sur le gazon. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que vous pouvez vous imaginer ce que cela signifie pour frère Franck au début de décembre 62 à Jeffersonville, d'être là-bas à Jeffersonville et de mes propres yeux, j'ai vu, n'est-ce pas, les bulldozers monter et descendre de la rue. J'ai vu, ils étaient en train de mesurer la largeur. J'ai vu la palissade de frère Branham couché sur le gazon. J'ai vu ça de mes propres yeux. Et frère Branham m'a dit, je dois déménager car nous devons aller en Arizona comme le Seigneur me l'a dit, me l'a montré en mars 62. Et c'est peut-être raison qu'il m'a demandé de prêcher pour lui à Los Angeles parce qu'il ne pouvait plus y aller. Et le 26 décembre, donc, il a déménagé à Tucson. Et le 28 février, il était là-bas sur la montagne de Sunset, alors que la nuit surnaturelle est descendue. Et les sept anges dans cette constellation, étaient enveloppés dans cette nuée. Et il a dit que c'est le septième ange qui m'a adressé la parole. Il m'a signifié plus que tous les autres six. Et il disait, retourne à Jeffersonville, car le temps est arrivé d'ouvrir les sept sceaux. Bien-aimés frères et sœurs, je suis un témoin oculaire, un témoin irréculaire. J'ai été là, dans l'endroit, j'ai vu les arbres dont les cibles étaient courbées, cassées. Et je remercie le Seigneur de ce que Il ne m'a pas seulement accordé un appel audible direct, mais il a fait en sorte que je sois témoin, que je sois là, sur place, et que, en grande partie, j'ai pu vivre moi-même ces choses que Dieu, dans le ministère de frère Branham, par sa grâce de manière surnaturelle, a fait. Je pourrais ici donner trois dates particulières. Je ne sais pas ce que cela signifie pour vous, mais je peux dire que je ne suis pas quelqu'un qui a suivi des fables habilement conçues, mais j'ai trouvé la grâce devant Dieu. Il a vraiment conduit les choses ainsi et dirigé les choses ainsi que je puisse vivre ces choses personnellement. Et répétons cela encore, que ce soit la colonne de feu ou bien ensuite la nuée, tel que dans l'Ancien Testament, il y avait la colonne de feu et ensuite la nuée, le jour et la colonne de feu de nuit. C'est ainsi que dans notre temps, dans notre génération, le même Seigneur est descendu sur terre comme autrefois et il a visité son peuple, il a mandaté, il a donné des ordres et il, par sa grâce, il nous a reconduits à revenir à sa parole. Donc ensuite, bien, frères et sœurs, encore plusieurs écritures dans l'épître de Pierre. J'espère que de tout votre cœur, vous réjouissez, vous écoutez, vous suivez, que nous sommes en train de vivre ce dernier passage, cette dernière époque, qui est la dernière avant le retour de Christ. L'appel à sortir, la séparation des croyants, la séparation et la préparation des croyants a lieu maintenant. Et disons-le cela avec une grande douleur. Vraiment avec une grande douleur. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, Paul a, n'est-ce pas, à peu près 20 versets, il a utilisé les premiers 20 versets pour décrire ce qui s'est passé dans le désert. Et il parle du rocher qui était Christ. Il parle de ce rocher dont tous ont bu, de la manne dont tous ont mangé. Mais ensuite, il vient à, pour finir, il dit, mais la plupart d'entre eux, qui sont ces eux qui ont mangé, qui ont bu, ne furent point agréables à Dieu. Et ça, ça va jusqu'à dans la profondeur de notre âme. C'est eux-là, c'est qui? Colonne de feu, nuée, manne, présence de Dieu. Ils ont expérimenté tout ça. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont vu. Et malgré cela, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Il y avait ces Aram et tous ces gens qui se sont rebellés contre Moïse et tous ces gens qui étaient présents, mais qui s'égaraient dans leur cœur et qui ont commis de l'idolâtrie. Quoi que la colonne de feu, la nuée de feu, la présence de notre de Dieu était parmi eux. Et, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas, mais quand je pense à cela, combien des soi-disant frères parlent de colonne de feu, parlent de nuée, et ensuite parlent du prophète. Et tout ce qu'ils font crie au ciel, n'a rien à voir avec nuée et colonne de feu. Ce sont des propres chemins, ce sont des propres pensées qu'ils ont. Je ne veux même pas mentionner cela, mais particulièrement déjà en 1976, alors que le point culminant de cet enseignement-là était venu que en 1977, le retour du Seigneur Jésus-Christ aura déjà lieu. Et le frère conducteur de Tucson vint à Krefeld avec ses trois filles, avec toute la famille, et il m'a mis le pistolet sur la poitrine et il m'a dit, frère Franck, est-ce que tu crois ce que le prophète a dit, que en 1977 tout sera terminé? Et je lui ai dit non, ça je ne le crois pas. Et je vais vous dire aussi pourquoi. Parce que en 1976, aussi vrai que Dieu vit, et que j'étais en train de passer, sortir du temple et tourner derrière subitement. En 76, la voix audible du Seigneur a retenti. Mon serviteur va sur le terrain voisin et consacre-le moi. Car beaucoup d'hommes viendront de différents pays qui auront besoin d'être hébergés. Bâti là-dessus. C'était un ordre direct du Seigneur. En 76, vous connaissez tous l'histoire. Et notre terrain du voisin était encore, n'est-ce pas, avec un mètre de mur, avec des... C'était un camp à l'époque, avec tout ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec des fils de fer et tout ça. Et sous l'ordre du Seigneur, je devais acheter ce terrain et construire là-dessus. Alors j'ai pu dire à ses frères en 76 que je ne crois pas à cela. Alors, sa réponse a été, donc je ne peux plus te serrer la main. Je ne peux pas te serrer la main. Et il est reparti avec sa femme et ses filles en Hollande et ensuite sont repartis aux États-Unis. Mais aucun de tous ses frères qui ont propagé toutes ces erreurs ont corrigé quelque chose ou bien réparé quelque chose. Rien. Ils sont égarés, ils ont été égarés, ils ont prêché des erreurs et ils ne corrigent rien jusqu'à aujourd'hui. Et tout ça mentionnant bien sûr frère Branham et le surnaturel, et eux-mêmes marchent sur leur propre voie, ont marché sur leur propre voie, et des enseignements de perdition et de démons qu'ils ont infiltrés parmi le peuple de Dieu. C'est peut-être la raison que nous voulons être particulièrement reconnaissants de ce que le Seigneur, par sa grâce, nous a conservé dans sa sainte et précieuse parole. Je dois vraiment dire que tout n'est que grâce, que le Seigneur, dans le déroulement de ces années, nous a accordé. Et ça, c'était aussi l'ordre. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Et bien, mes frères et sœurs, lors d'un tel mandat, cela pénètre jusqu'à la moelle épinière et tout l'âme. Personne ne peut s'imaginer. Quand le Seigneur audiblement mandate quel absolu est dans sa voix, ça pénètre tout jusqu'à la moelle épinière. Et mais au Seigneur soit la reconnaissance de ce que il a veillé sur moi, veillé sur sa parole jusqu'à aujourd'hui encore. Pas, je n'ai prêché aucune interprétation, aucune erreur, aucun faux enseignement. J'ai fait que prêcher les Écritures, la parole de Dieu, sans en tordre le sens. Et tous ceux qui sont de Dieu écouteront la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi est-ce que je mentionne toutes ces choses aujourd'hui ici? C'est la première réunion dans cette année. Et nous sommes vraiment convaincus de ce que cette année sera accompagnée de bénédictions comme jamais auparavant. Le Saint-Esprit va percer et tous seront saisis et dans la foi nouvellement expérimenter Dieu comme la chorale l'a chanté. Dans l'épître de Pierre, nous lisons 1 Pierre au premier chapitre. Ici, il nous est dit, vous, 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Au Seigneur soit la reconnaissance. À de telles paroles, nous pouvons dire Amen de tout notre cœur. Pas racheté avec de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ et délivré de nos fautes. Tous les péchés sont pardonnés et nous sommes réconciliés avec Dieu. Encore une fois, le verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté. Est-ce que vous remarquez cela? Prédestiné avant la fondation du monde. Nous sommes aussi prédestinés avant la fondation du monde de croire maintenant, de recevoir maintenant et de remercier le Seigneur pour ce qu'il fait dans le présent. Ensuite, au verset 21, par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts. Et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Et tous nous savons combien de fois nous l'avons dit, celui qui croit ce que Dieu a fait et a promis ne sera jamais confus, car Dieu est lié à sa parole. Et il tient ce qu'il promet. Au verset 23, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ici, les deux sont répétés. Les deux sont répétés avec insistance. Ce qui s'est passé par le sang, le pardon, la réconciliation, la grâce et le plein salut. Mais ensuite, la nouvelle naissance, la vie nouvelle. Encore une fois, le verset 23. Puisque vous avez été régénérés, été nés, parce que vous avez été nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Combien de fois nous avons eu à le dire, bien aimés frères et sœurs, la parole doit en nous être placée. La parole est la semence divine et le Saint-Esprit vient sur la parole pour en nous créer la nouvelle vie. Au verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile en tant que message du salut. Ici, nous avons un résumé de ce qui s'est passé par le sang de l'agneau et en ceux qui ont accepté le sacrifice et ce qui s'est passé pour nous à Golgotha. Il s'agit d'accepter la parole. Ensuite, il est écrit d'accepter la parole pour recevoir la vie éternelle. Nous lisons à partir du verset 6, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Bien, frères et sœurs, nous voulons mettre notre confiance seulement en lui, en ce qu'il a fait pour nous, lui, la pierre angulaire choisie, précieuse, s'est accomplie. Il a dit, c'est accompli. Mettons notre confiance en ce qu'il a accompli, en croyant ce qu'il a accompli. L'honneur est donc pour vous, verset 7, avons-nous la confiance? L'honneur est donc pour vous qui croyez. Croyons-nous? Crois-tu Dieu? Est-ce que tu crois ce que Dieu a promis? Donc l'honneur est donc pour toi. Alors, cela va s'accomplir en toi et avec toi. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Et que cet honneur consiste à ce que Dieu confirmera sa parole en vous qui croyez. Et sa promesse va s'accomplir en vous. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Et nous avons la foi dans les œuvres, dans les promesses de Dieu. Nous possédons cette foi dans les promesses de Dieu. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Ici, nous avons écrit noir sur blanc, d'un côté, une pierre précieuse sur laquelle l'Église est fondée et nous, en tant que des pierres vivantes, nous sommes édifiés pour devenir une maison de Dieu en esprit. Mais chez les incrédules, ils n'ont pas de confiance, ils n'ont pas de foi. Et c'est ainsi que dans leur incrédulité, dans leur désobéissance, ils se sont heurtés en lui. C'est ainsi que c'était dans le temps de Jésus. les scribes et pharisiens, n'est-ce pas? Les sadduciens, tous ont pas reconnu ce que Dieu faisait dans leur temps. Ils ont continué dans la synagogue à chanter leur cantique, à lire de la Torah. Et ils ont loupé ce que Dieu faisait dans leur temps. Et bien aimés frères et sœurs, c'est peut-être raison que nous le disons encore une fois. Heureux les enfants de Dieu qui maintenant vivent sur cette terre et qui croient Dieu et qui font confiance à Dieu, que tout ce qu'il a promis, il l'accomplira par sa grâce. Et ça, c'est notre témoignage. Et cela nous diffère de tous ceux qui sont dans leur propre foi. Ils ont leur propre foi, leur propre profession de foi, leur confession, leurs enseignements. Vous pouvez aller d'église à l'église, vous pouvez aller de communauté à communauté. Tous ont leur propre profession de foi qu'ils ont même mis par écrit. Nous, notre confession de foi, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Et Dieu lui-même a pris soin que nous puissions avoir la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Un testament, c'est comme nous l'avons déjà dit en insistant, c'est donc un document, un témoignage, la dernière volonté de Dieu. Et nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et c'est ainsi que, au verset 8, il est dit, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Comme c'est écrit dans Ésaïe 8, verset 14, ils sortent. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont déterminés. Cela fait mal au cœur. Mais c'est ainsi. C'est ainsi. Aussi certain que nous qui croyons, nous avons été prédestinés à croire, à accepter tout, à expérimenter tout, et par la foi, honorer le Seigneur. C'est ainsi que tous ceux qui ne croient pas et persévèrent dans l'incrédulité et la désobéissance sont déterminés à sortir et à être contre tout. Et je voudrais savoir combien sont contre quand je rends témoignage de ce que Dieu, aussi de manière surnaturelle, a fait dans notre temps, et particulièrement aussi dans le ministère de frère Branham. Je m'excuse, mais prenons tous ces grands évangélistes-là qui, en fait, tous sont passés sans prendre part à ce que Dieu a déterminé pour ce temps. Ils ont tous bâti leur grand empire. Ils sont devenus des multimillionnaires. Et qu'est-ce qu'est le résultat final? Ici, nous avons ce qui, en fait, doit devenir important pour nous, c'est-à-dire la grâce. Donc, ce que Dieu a promis, accepter de tout notre cœur cela et lui dire merci pour cela, de ce que aussi dans notre temps, il se soit manifesté dans la nuée et la colonne de feu. Mais nous ne nous arrêtons pas à cela. Nous faisons comme Pierre nous l'a transmis. Nous allons, et pour que par le sang, nous sommes rachetés, et par la parole de Dieu, par la semence incorruptible de la parole, nous soyons régénérés, nés de nouveau, et expérimentés personnellement notre nouvelle naissance réellement. Donc pas seulement s'arrêter à être enthousiasmés des choses surnaturelles que Dieu a fait dans notre temps. Mais ce que Dieu, en vertu de l'œuvre accomplie de la rédemption, a préparé pour nous, l'accepter dans la foi et faire toutes les expériences du salut, prendre part réellement ainsi à notre préparation et à notre achèvement, l'achèvement, la perfection de l'Église. Et ici, l'apôtre dit encore une fois, au verset 10, dans le deuxième chapitre, « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde et qui maintenant êtes riche en miséricorde. » En allemand, nous n'étions pas un peuple, nous étions parmi les nations éparpillées, mais le Seigneur, n'est-ce pas, lors du premier entretien, a donné à Abraham cette promesse. En toi seront bénis toutes les nations de la terre. Et c'est ainsi que cela sera jusqu'à la fin. Le Seigneur appelle maintenant de tous les peuples, les langues, son peuple à sortir. Le dernier message retentit et la dernière prédication, ça nous l'avons eu à dire souvent, doit être comparable à la première prédication. Le dernier baptême d'eau doit être comparable au premier baptême d'eau. Tout doit être à 100% dans l'Église du Nouveau Testament, semblable, et doit être ramené dans l'état primitif au commencement. Et à cela, que Dieu puisse aussi accorder sa grâce à tous les frères qui parfois ont des problèmes à comprendre des versets bibliques très simples à comprendre, sur lesquels je ne veux pas aujourd'hui rentrer dans les détails. Mais parfois, ce sont des frères qui, n'est-ce pas, ont déraillé, dévié et s'occupent avec des pensées comme Paul. Par exemple, est-ce que Paul aurait été ajouté aux 11 apôtres, ou bien alors est-ce que c'était dans Actes apôtres 1, le Matthias à qui donc la losse a atteint. On a seulement besoin d'aller dans 1 Corinthiens 15. Avant qu'un Paul était, il a rendu témoignage de ce qui se passerait après la résurrection, que le Seigneur d'abord avait apparu à Pierre et ensuite aux 12. Donc le choix de Actes apôtres 1 était valable devant Dieu. Mais Paul était un apôtre. Il avait même reçu le ministère d'apôtre et il a toujours insisté sur son appel. Mais l'homme qui a été ajouté aux 12 apôtres, n'est-ce pas, appartenait aux 12, à qui le Seigneur, n'est-ce pas, même Paul plus tard a rencontré le Seigneur qui auparavant marchait dans ses propres voies. Mais je ne veux pas perdre mon temps avec de telles questions et des réponses. Que tous les frères puissent trouver leur place dans le royaume de Dieu. Et d'autres veulent savoir, est-ce que Judas était là lors du souper? Mais qu'ils puissent lire. On peut lire tout ça. Et celui qui lit, que ce soit dans Matthieu, que ce soit dans Marc, peut lire d'abord. Celui qui mettra sa main avec moi dans le plat, c'est celui-là. Lors du souper, personne a mangé ensemble dans le bassin. C'était seulement lors de la Pâque. Et pendant le souper, c'était du pain sans levain et c'était Pesach, c'était le souper. Et c'est pendant le souper qu'on a partagé le repas. Et qu'ensuite, il a coupé, rompu le pain et l'a distribué. Et ensuite, il a pris la coupe. Il a béni la coupe. Et il leur a donné. Et ils ont en bu tous. Comment ça peut être mal compris? La parole de Dieu est claire, est assez claire. Pourquoi est-ce que les frères ne retournent pas à la parole? Mais ils ont des disputes et des divisions. Ils divisent des églises à cause de ça parce qu'ils sont des insensés. Ils ne reviennent pas à la parole. Ils ne veulent pas revenir à la parole. Ils sont en train de s'occuper. Utiliser des citations de frère Branham. Comprenons de quoi il s'agit aujourd'hui ici. Simplement, dans l'humilité, revenir au Seigneur. Et tel que c'était David qui avait dit des sacrifices qui me sont agréables, c'est un cœur brisé et un esprit humble. Et j'aimerais compter combien de fois je suis sorti, j'ai marché depuis que j'ai consciemment lu cette écriture. Des sacrifices qui plaisent à Dieu, c'est un cœur brisé et un esprit humilié. Cela est venu sur ma bouche avec un cri de mon âme. Ô Seigneur, accorde-moi un cœur brisé. Accorde-moi un esprit humble. Vous savez ce que cela veut dire? Un cœur de pierre ne peut pas être brisé. Donc, un cœur qu'on peut toucher, que Dieu puisse accorder à nos cœurs, des cœurs qui peuvent recevoir sa parole et un esprit humble par sa grâce. Pas savoir toujours mieux les choses que les autres, ou bien savoir plus, toujours plus les choses, mais simplement, en toutes choses, respecter la parole, les Écritures, et seulement croire comme l'a dit les Écritures. Et c'est la même chose aussi avec le souper du Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui font des différences à Jeffersonville, du temps de frère Branham? J'ai fait les deux. Le souper et le lavage des pieds. Pourquoi est-ce que aux frères, maintenant, ils font d'abord le lavage des pieds et après le souper? Pourquoi est-ce qu'ils doivent faire des choses qui ne doivent pas être faites? Ils font d'abord le lavage des pieds et c'est après qu'ils prennent le souper. Pourquoi? Parce qu'ils ne reviennent pas aux Écritures. Je vous dis, celui qui maintenant vraiment a reçu un appel de Dieu, il ne va pas se laisser perdre son temps avec des disputes de mots qui ne servent à rien, mais il va seulement laisser la parole de Dieu être valable et il va chercher la paix avec tous les hommes. Et il va aussi conserver la paix pour que le Seigneur, parmi son peuple, puisse bien se sentir et achever son œuvre en nous tous par sa grâce. Mon désir, et ça, je peux le dire, c'est la volonté de Dieu que tous les frères dans le monde entier qui servent le Seigneur, qui prêchent la parole, n'apportent rien d'autre, des choses qui produisent des tensions, des divisions, et qu'on doit que rejeter, mais qu'ils soient directement, simplement conduits par le Saint-Esprit, dans l'union de l'Esprit, prêcher la parole et dispenser la parole correctement et servir le peuple de Dieu et lui distribuer la nourriture spirituelle. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit l'honneur, soit la louange, que tous nous soyons fortifiés, bénis, avec un nouveau courage allant de l'avant dans cette année, dans la conviction que le Seigneur sera avec nous et fera toutes choses bien aussi partout où il y a des difficultés dans les familles, dans les couples. Jamais auparavant, il y a eu tant de difficultés comme dans notre temps. Mais le Seigneur est fidèle. Il a dit, invoque-moi dans la détresse et je t'invoquerai et je t'exaucerai. Et ainsi, que son nom soit glorifié. Pour que son nom soit glorifié, nous pouvons avec tous venir au Seigneur et il rendra toutes choses bien. À lui qui a versé son sang pour nous et qui a accordé sa parole et qui, dans notre temps, de manière merveilleuse, s'est révélé dans la nuit et ensuite dans la colonne de feu. Ainsi, il a prononcé un mandat divin de prêcher le dernier message avant le retour de Christ. Et nous pouvons dire qu'aujourd'hui, tout est accompli, tout cela est accompli devant nos yeux. Et de la même manière, nous pouvons dire, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. À lui, notre Seigneur, soit l'honneur dans toute l'éternité. Alléluia. Amen. Amen. Levons-nous et remercions le Seigneur. Chantons ce cœur tel que je suis, sans rien de moi. Bien-aimés frères et sœurs, acceptez cela dans la foi. Ceci est le jour, ceci est le temps que le Seigneur a fait. Et si nous lisons au temps fixé, oui, il a fixé le temps, il a veillé sur sa parole, et il accomplit ce qu'il l'a promis. Que aujourd'hui, dans cette réunion, nous soyons fortifiés, dans la foi fortifiée, affermis dans la conviction que nous n'avons prêché rien d'autre que la sainte et précieuse parole de Dieu. Et que nous croyons rien d'autre que la sainte et précieuse parole de Dieu que nous voyons dans son accomplissement, que ce soit avec le changement climatique, avec Israël, ou alors avec les nations. Tout comme il est écrit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et les étoiles, des tremblements de terre, des famines, des disettes viendront. Bien-aimés frères et sœurs, nous voyons tout cela accompli devant nos yeux comme cela s'accomplit. Ô grand Dieu, nous venons ensemble devant le trône de la grâce, dans la foi, dans la plénitude de la foi, sous le sang. Et nous te remercions de ce que le sang de la Nouvelle Alliance est encore sur le trône de la grâce et que nous vivons encore dans le temps de la grâce. Appelle les derniers à sortir, car c'est ainsi que c'est écrit. Le Seigneur, n'est-ce pas, ne tarde pas avec l'accomplissement de sa promesse. Il attend jusqu'à que les derniers soient appelés à sortir. Encore aujourd'hui, que ce soit ici ou bien partout, parmi ceux qui écoutent sur toute la terre, bien-aimé Seigneur, que tous ceux qui maintenant écoutent ta parole révélée pour ce temps, cette parole déterminée pour ce temps, avec les promesses qu'ils puissent l'écouter, la croire, qu'ils puissent l'expérimenter personnellement par ta grâce. Aussi parmi nous, tu connais toutes les requêtes, les problèmes. Nous t'apportons, Seigneur, tout, toutes les familles, tous les individus, tous ceux qui sont avancés en âge, tous ceux qui passent par les douleurs. Bien-aimé Seigneur, nous te remettons tout entre tes mains et te demandons ta bénédiction. Que cela ait servi à quelque chose aujourd'hui, d'avoir écouté ta parole. Et que cela ait servi à quelque chose, que nous croyons ce que est comme l'Écriture le dit, pour avoir part à ce que tu fais, Seigneur, maintenant. À toi soit la louange pour cela, dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il y en a peut-être deux, trois frères qui veulent remercier. Asseyons-nous. Oui. Seigneur notre Dieu, à toi soit la louange, la gloire et l'adoration pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta grâce. Seigneur, tu es celui qui suscite la foi et qui la rend à la perfection. Tu es notre fondement. Et c'est sur ce fondement-là que nous bâtissons. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu nous as donné. Tu nous as appelé à sortir. Ici, sur ce chemin, tu nous as placés. Accompagne-nous sur ton chemin, Seigneur Jésus, pour que nous puissions un jour voir ce que tu as fait pour nous. Tu vois les difficultés, tu vois les problèmes dans tous les endroits. Que tu puisses, Seigneur, recevoir ces problèmes et aider, secourir. Je te remercie de ce que tu ne fais pas de choses en moitié. Tu achèveras, tu feras toutes choses parfaitement. À toi soit la louange, l'honneur et la gloire de ce que nous avons entendu, ta parole véritable qui demeure dans notre cœur. Mais aussi, Seigneur Jésus, bénis notre bien-aimé frère qui nous a apporté ta parole aujourd'hui. Fortifie-le, bénis-le. Je te remercie de ce que tu le gardes et que tu marches avec lui. Je te remercie, Seigneur Jésus, de ce que tu nous bénis chacun là où il est. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous voulons, pour le nom du Seigneur, chanter un cantique ensemble. Est-ce que quelqu'un a un cantique à proposer? Le 344. Nous voulons chanter cela de tout notre cœur. J'ai besoin de toi en tout temps, Seigneur plein de grâce. Ton nom est mon refuge, ton sang est ma mère de joie. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi. Je dois toujours t'avoir, ô Seigneur. Bénis-moi. J'ai besoin de toi en tout temps. Oh Jésus, sois proche de moi. Pour que jusqu'à dans la mort, je te demeure, je te reste fidèle. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je dois toujours t'avoir, Seigneur. Bénis-moi. J'ai besoin de toi dans la joie comme dans la douleur. Tu es mon soleil, mon refuge, mon bouclier maintenant et éternellement. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi, Jésus. Oui, j'ai besoin de toi. Je dois toujours t'avoir, Seigneur. Bénis-moi. J'ai besoin de toi en tout temps. Conduis-moi comme tu veux. Je m'attends, je reste patient jusqu'à ce que tu accomplisses toute ta parole. Je dois toujours t'avoir, Seigneur. Bénis-moi. J'ai besoin de toi en tout temps. Et Seigneur Jésus, Fils de Dieu. Avec toi, j'hérite la vie éternelle, la couronne de la vie éternelle. Béni. Nous allons maintenant encore ensemble remettre au Seigneur toutes les requêtes. Aujourd'hui, j'ai apporté aussi l'huile d'onction au cas où un ou deux ou trois frères et sœurs sont ici qui sous l'onction et la prière, les mains des anciens croient être guéris. Sentez-vous libre, venez devant et le Seigneur relèvera les croyants, les malades. Nous avons encore des salutations de l'Amérique du Sud, des salutations du frère Tatu de Bruxelles et très particulièrement les salutations d'une docteure Lotika de l'Australie. Il m'a appelé hier matin vers 10h et me disait bonsoir frère Franck, et je pensais en moi-même, nous sommes encore ici le matin, mais là-bas c'était le soir 21h. Mais tous remettent salutations, et aussi notre frère Jean Lambert, nous le souhaitons particulièrement la grâce de Dieu est traduite pour que tous dans la langue française puissent écouter la parole qui est prêchée ici. Que Dieu bénisse aussi tous les autres frères qui dans d'autres langues traduisent. Pensez à moi, n'est-ce pas, dans vos prières depuis que j'ai dépassé les 86 ans. Je vais vers les 90 ans, les 90 ans, et tout a un peu laissé, mais au Seigneur soit la reconnaissance, il accordera sa grâce. Levons-nous. Et encore une fois, remettons au Seigneur toutes les requêtes et toutes les difficultés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tous les problèmes, toutes les difficultés qui pourraient être parmi nous et dans le monde entier, nous te les apportons. Tu es encore aujourd'hui le même. Tu sauves, tu guéris, tu délivres, tu bénis. Et nous te remercions de ce que tu confirmes ta parole dans ta maître sûr. Nous sommes guéris. C'est ainsi que c'est écrit. C'est ainsi que nous le croyons. Fortifie tous dans la foi pour qu'ils puissent recevoir ce que, selon ce qu'ils ont demandé. Et bénis-nous et que ta face puisse, laisse lui ta face sur nous tous. Et bénis particulièrement tous ceux qui sont là pour la première fois, qui sont nouveaux. Bénis-nous tous et accorde-nous ta paix dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Alléluia, Amen. Alléluia, sois glorifié. Amen, amen. Et nous allons heureux d'ici, repartons heureux et remercions le Seigneur. Saluez-vous tous. Amen.